19h30, Infomag avec vous, Jean-François Baudin.
Un temps chaud et humide prévu dans les mois qui viennent et la saison fraîche qui se termine a été relativement douce. Page météo à retrouver dans ce journal. 700 millions de francs de travaux à Jules Garnier, des rénovations livrées ce matin pour permettre le développement de l'établissement. Pendant ce temps, c'est la fête au groupe scolaire de Boulary, il fête ses 50 ans d'existence. Dans la région, rapprochement militaire entre l'Australie et la Papouasie, les deux pays vont signer demain un traité pour unifier leurs forces militaires. Pas de suppression de jours fériés, suppression des avantages à vie pour les anciens ministres. Le nouveau Premier ministre joue les équilibres pour éviter la censure. Et puis Armand Duplantis s'envole à 6,30 m. Le perchiste suédois remporte le championnat du monde, mais il bat aussi pour la 14e fois son propre record du monde. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui se poursuivra avec le magazine Citoyen. Bonjour Lionel Sabot.
Bonjour Jean-François.
Un magazine citoyen dans lequel vous parlerez cette semaine avec vos invités des JMJ.
Oui, les Journées Mondiales de la Jeunesse qui auront lieu à Séoul dans 2 ans, c'est en Corée du Sud. Elles ont été créées, ces Journées Mondiales de la Jeunesse, par le pape Jean-Paul II. Elles sont devenues incontournables dans la vie des jeunes adultes catholiques. Alors comment se prépare-t-on à participer à un tel rassemblement? Qu'apporte ce grand rendez-vous? On en parle ce midi avec nos invités. Nous serons avec le père Ken Boiret. Nous serons également avec Narcisse Aoutaoulou, qui est vice-président du comité JMJ, avec Mati Filiquessa, qui a participé au JMJ 2023, c'était au Portugal, et avec Sandra Wakandak de la paroisse du Bon Pasteur, qui elle partira au prochain JMJ à Séoul dans 2 ans. On se retrouve juste après votre journal.
On se retrouve pas dans 2 ans, oui, on est d'accord. On se retrouve juste après le journal. Merci Lionel. Donc le magazine citoyen à suivre. Avant de développer les titres du journal, la question du jour.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS avec d'abord la réponse à notre question d'hier. 95% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent favorables au report des élections provinciales à juin 2026. Ils ne sont que 5% à dire qu'ils n'y sont pas favorables. Voici notre question du jour. Après le rejet de l'accord de Bougival par le nouveau FLNKS, êtes-vous favorable à la reprise de discussions entre partenaires locaux? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La suite de l'actualité avec un peu de tension ce matin devant le lycée Cluny, au centre-ville. Un jeune élève a été pris à partie par 2 autres jeunes, un majeur et un mineur, qu'ils accusaient d'embêter leur sœur. Ils ont bousculé leur victime et arraché son t-shirt. Ils l'ont aussi menacé avec une arme blanche. La police est rapidement intervenue sur les lieux et les agresseurs ont été placés en garde à vue. Et puis une mobilisation devant le camp Est ce matin. L'USWINC, EFO et l'USTKE sont regroupés devant le centre pénitentiaire, Nicolas Legrand.
Oui, un mouvement qui doit durer 2 jours à l'occasion de la venue sur le territoire du directeur de l'administration pénitentiaire, Sébastien Coël, et du directeur interrégional. Une cérémonie doit d'ailleurs se tenir à l'occasion de leur visite pour récompenser certains agents de leur engagement lors de la crise de mai 2024 et notamment lors des mutineries. Seulement, selon les syndicats, la liste des personnels mis à l'honneur ne correspond pas à la réalité du terrain. Victor Wayaridri est surveillant au camp Est et représentant de Force ouvrière.
Un mouvement de mécontentement, on va dire, un ras-le-bol par rapport à les événements de l'année dernière, du 13 et 14 mai. Il y avait une mutinerie, 3 collègues pris d'otage. Nous constatons qu'il y a eu une liste de médaillés, des récompensés. Le directeur, le chef de détention, l'adjoint du chef de détention, les brigadiers-chefs, ont eu des TOS. Le TOS, c'est des témoignages officiels de satisfaction. De cette liste-là, il y a des noms qui figurent, qui n'ont pas été là pendant les mutineries. Et il y a des noms qui n'y sont pas, alors qu'ils étaient là depuis les événements-là. Ben, nous, on a toujours été oubliés. Les agents de cours-cibles, que ce soit les surveillants de détention, qui ont bravé le danger. Nous, c'est surtout ça, ce mouvement-là de grogne vers la hiérarchie, la direction. Parce que c'est eux qui ont eu les lauriers. Et pourquoi pas nous? C'est vraiment du foutage de gueule en langage calédonien. C'est vraiment du n'importe quoi.
L'intersyndicale restera mobilisée le temps du séjour du directeur de l'administration pénitentiaire devant le camp Est et boycottera d'ailleurs la cérémonie prévue demain après-midi.
Parlons maintenant météo. La saison fraîche a été relativement douce. Même si ces derniers jours, un temps frais s'est installé sur le territoire, les derniers mois ont été plus chauds que les normales. En fait, c'est-à-dire que la moyenne observée ces 30 dernières années entre 1990 et 2020. Thomas Abinoun, climatologue chez Météo France Nouvelle-Calédonie, était ce matin notre invité.
Sans surprise, on va dire, on a eu une saison fraîche qui a été relativement douce encore, avec des températures bien au-dessus des valeurs de saison. Hein, pour donner des chiffres, on a eu en journée en moyenne pays des températures qui étaient sur les mois de mai à août, 1 degré au-dessus des normales en journée, et puis jusqu'à 1,7 degré au-dessus des normales en moyenne pays toujours, hein. Voilà, la nuit.
C'est une tendance qui se confirme d'année en année ?
Alors d'être au-dessus de normale, oui, c'est quelque chose qu'on voit, on va dire, tous les jours ou presque. Ce qu'on remarque, c'est que chaque année qui passe, on est systématiquement au-dessus des normales aujourd'hui. Hein, ça, c'est clairement en lien avec le réchauffement climatique d'échelle globale. Après, ce qu'on a aussi au niveau régional, là, c'est que depuis le début de l'année, on a aussi un océan qui est anormalement chaud au voisinage de la Nouvelle-Calédonie. Hein, c'est-à-dire sur le Pacifique Sud-Ouest, l'océan est presque un degré au-dessus de ses valeurs de saison. Et donc ça contribue aussi à réchauffer les températures atmosphériques en Nouvelle-Calédonie.
La température de l'océan plus chaude que les années précédentes apporte une instabilité et des précipitations. Depuis le début de l'année, les cumuls de pluie sont conformes aux normales ou excédentaires. Une bonne nouvelle à l'approche de la saison sèche et donc de la période des feux de brousse.
C'est toujours un moment un petit peu délicat dans l'année parce que on peut se retrouver dans des situations de pénurie d'eau. On sait aussi que c'est une saison qui est propice aux incendies. Ce qu'on sait, c'est que du fait d'avoir cet environnement un peu plus instable en ce moment, du fait des températures qui sont plus chaudes, d'avoir cet océan qui est plus chaud aussi, eh bien, on ne s'attend pas pour autant à avoir des déficits hydriques sévères. On s'attend plutôt à avoir des cumuls de pluie qui devraient être soit conformes, soit supérieures aux valeurs de saison. Donc les valeurs de saison, pour les rappeler, c'est à peu près 50 mm de pluie par mois, ce qui peut suffire à maintenir un couvert végétal suffisamment vert pour qu'on n'ait pas trop de feu. Donc cette année, a priori, on devrait plutôt avoir un risque moindre d'incendie. Je dis bien moindre, hein, le risque est toujours là et inévitablement on va avoir des départs de feu parce que c'est la saison sèche. Mais on ne s'attend pas à être dans une saison drastique comme on a pu connaître en 2019 ou 2017.
Au cours des prochains mois, une petite Niña devrait s'installer et apporter un temps chaud et humide. Un phénomène moins intense que les années précédentes, prévient Thomas Abinoun, climatologue chez Météo France Nouvelle-Calédonie. Une interview qui est à retrouver en podcast audio et vidéo sur rrb.nc. Il est 11h37, une pause dans ce journal. On parlera enseignement dans un instant avec un anniversaire au Bzoub solaire de Boulary, des livraisons de travaux à Jules Garnier et un forum des métiers au Collège Baudoux.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Fais appel à tes collègues préférés et participe au CIPAC Challenge. Du 6 au 20 octobre, participez au plus grand challenge sportif inter-entreprise de Calédonie. Vous avez 15 jours pour bouger et faire un maximum de pas. Chaque jour, un défi sera relevé sur l'application pour gagner encore plus de points. Fais gagner ton équipe, ton entreprise ou même ton association pour remporter un des nombreux lots. Inscrivez-vous dès maintenant sur la page Facebook CIPAC Challenge. Le CIPAC Challenge, ensemble, on va plus loin.
Caroline de Groisel vous invite à découvrir sa nouvelle collection intitulée « Variations en fantaisie couleur ». À la galerie Artebello, rue Auguste Brun, expo jusqu'au jeudi 11 septembre, du mardi au samedi de 9h30 à 17h30. Variations en fantaisie couleur de Caroline de Groisel, ne passez pas à côté.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
C'était la fête ce matin au groupe scolaire de Boulary au Mont-d'Or, une fête un peu particulière à laquelle les enfants, parents, agents de l'établissement, mais aussi les élus de la commune et de la province sud ont participé, Lionel Sabot.
Une fête particulière en effet pour un anniversaire, les 50 ans du groupe scolaire de Boulary. L'école primaire de Boulary a ouvert en 1975, très belle année, et l'année suivante c'est l'école maternelle qui ouvrait ses portes. Il aura fallu attendre 2010 pour que le groupe scolaire de Boulary soit véritablement créé. Une histoire dont tout le monde s'est souvenu ce matin lors d'une grande fête organisée dans la cours de l'école. Epiphanie Agata est la directrice du groupe scolaire de Boulary.
C'est un devoir de mémoire que l'on doit vraiment à tous les corps de métier, aux familles et aux parents qui ont traversé des générations d'enfants et qui ont fait de cette école un vrai lieu de vie. Donc il fallait mettre à l'honneur cette fête, et avec ces périodes difficiles que nous venons de traverser, c'était le coup de fête qu'il fallait avoir cette année. C'est une fois dans ma carrière, et c'est surtout de voir que les parents ont répondu présent, les partenaires sont là, et puis c'est surtout mettre en valeur le travail de l'équipe, le travail de toutes les équipes pédagogiques et municipales qui ont vraiment œuvré pour que ce jour soit mémorable, et c'était l'objectif.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à votre école pour les 50 prochaines années ?
Longue vie.
Le groupe scolaire de Boulary fête donc ses 50 ans, groupe scolaire qui, il y a quelques années, aura été précurseur dans le domaine notamment du temps scolaire, rappelé ce matin Elisabeth Rivière, la maire du Mont-d'Or.
Il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, nous avions été retenus par l'État, et à l'époque, c'était le ministre Guy Druc qui avait mis en place ce projet d'aménagement des rythmes scolaires. Et j'avais eu l'opportunité, puisque à l'époque j'étais salariée de la ville du Mont-d'Or, de mener ce projet avec trois établissements scolaires dont Boulary faisait partie. Ce projet était consacré principalement aux matinées avec les activités fondamentales, les maths, le français, et l'après-midi plus aux activités sportives, culturelles, environnementales. Et cela a permis à des enfants qui étaient parfois très éloignés dans les classes de l'école de pouvoir leur redonner envie de se réapproprier les choses de l'apprentissage pour qu'ils se sentent un peu mieux, et justement que l'on lutte contre cet échec scolaire.
Présent également pour cet anniversaire, les membres du conseil municipal, mais aussi les représentants de la province sud. Marie-Jo Barbier est la présidente de la commission enseignement à la province sud.
On fête les 50 ans de ce groupe scolaire, et puis j'aime beaucoup venir soutenir nos enseignants qui font un travail remarquable, et je tiens vraiment à les féliciter pour tout ce qui est fait dans les écoles. Et puis être présent pour justement le spectacle préparé par les enseignants avec les élèves.
Et j'ajoute qu'aujourd'hui le groupe scolaire de Boulary accueille 264 enfants, 184 en primaire, 80 en maternelle. Peut-être les futurs parents d'enfants qui fêteront un jour, qui sait, pourquoi pas, les 100 ans de cet établissement scolaire du Mont-d'Or.
Le lycée Jules Garnier est fait, lui, depuis juin 2023, l'objet de travaux de rénovation et d'amélioration. Il s'agit de créer un pôle scientifique, de revoir les voies de circulation au centre du lycée, mais aussi de réorganiser une partie des enseignements. Écoutez Michel Lehouillet, le proviseur du lycée Jules Garnier.
Sur ces travaux-là, on avait vraiment une grosse problématique sur un bâtiment au cœur du lycée, et qui était désaffecté depuis des années, en fait, dans lequel il y avait un projet de pôle science. Au bout de 17 ans, on a enfin réussi à créer ce pôle science, et on a redistribué complètement les cartes, la carte géographique, avec la vie scolaire qui était en tout début de lycée très mal positionnée, qu'on a centré sous le pôle science. On a revu les voies de circulation. Quasiment tous les élèves font des sciences. On avait plusieurs labos qui étaient éclatés sur 5 bâtiments, avec du matériel qui parfois avait besoin d'être utilisé dans d'autres bâtiments. Donc on avait des gros problèmes de logistique, de gestion de salles, de gestion de labos. Donc on a vraiment créé ce pôle science pour travailler sereinement, pour pouvoir mutualiser en fait l'ensemble du matériel utilisé en un lieu, et tout le monde est content.
Et pour permettre ces rénovations et cet accompagnement, le lycée Jules Garnier a sollicité le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Écoutez Pételo Sao, il est membre du gouvernement en charge de l'animation et du contrôle des secteurs de la construction, de l'habitat et de l'urbanisme.
Ici, aujourd'hui, avec la réception de ce chantier, c'est de se dire quelle action on mène pour notre jeunesse en Nouvelle-Calédonie, quelle réponse on peut leur apporter suite aux exactions qu'on a connues l'année dernière. Et l'objectif, c'est vraiment de recentrer le devenir de ce quartier, notamment autour de la formation, que ce soit la formation initiale, mais que ce soit la formation professionnelle aussi. Donc voilà, une vocation éducative, une vocation formatrice.
L'État a également joué un rôle important dans la réalisation de ces travaux au sein de l'établissement. Jacques Billan, le haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie, était évidemment présent sur place ce matin.
Sur ce chantier, l'État est présent aux côtés du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie parce que nous sommes dans un lycée d'importance. Le lycée Jules Garnier, c'est un grand établissement de référence. Ce lycée a nécessité des travaux de rénovation, des travaux d'amélioration de ses bâtiments pour garantir sa performance éducative. Pour accompagner ces travaux de rénovation, l'État s'est engagé dans le cadre du contrat de développement 2017-2023 pour porter à 50% le montant des travaux qui a été retenu. Je rappelle que c'est 705 millions de francs, donc financé à 50% par l'État et par la Nouvelle-Calédonie.
Des travaux qui ont donc duré 2 ans au lycée Jules Garnier. Pendant ce temps, un forum des métiers et de l'orientation est organisé au collège Baudoux. Depuis 8 heures ce matin, une centaine d'élèves de 3e et une section découverte des métiers de classe de 4e sont répartis dans les salles. Ils peuvent rencontrer des professionnels qui leur présentent leur métier. Écoutez Aline Nicou, elle est professeure de français au collège Baudoux.
On accueille une quarantaine de professionnels de tout horizon afin de proposer aux élèves une première vue sur leur orientation future. On a des métiers qui sont plus à vocation manuelle, comme de la chaudronnerie, de la menuiserie, de l'électricité, un monsieur qui gère une entreprise de transport, jusqu'aux médecins, aux juges, aux biologistes moléculaires. Alors, on s'est rendu compte qu'au niveau de l'orientation à l'issue de la classe de 3e, c'était assez difficile pour les élèves de choisir une orientation qui leur permette d'exercer une profession qui leur plaise. Donc, dans l'idée de leur ouvrir l'esprit, on leur propose des échanges avec différents professionnels. Bon, depuis ce matin, ça se passe bien. On a le conseil de vie collégienne qui s'est joint à cette journée et qui propose l'accueil des différents professionnels. Les échanges sont très fructifiants. Ça se passe vraiment très bien. Les élèves sont ravis.
Différents secteurs d'activité qui ont donc mobilisé les collégiens, très heureux de pouvoir échanger avec des professionnels.
Paul Kinner, je suis en classe de 3e. J'ai pu voir une directrice du revenu management et programmation des vols Cherquelin, un technicien en communication, et là j'étais à une séance bilingue. Ça permet de confirmer mes attraits pour ces métiers.
Il y a un métier en particulier qui t'intéresse?
Surtout tout ce qui est ingénierie avec la directrice du revenu management et de programmation des vols. Cet après-midi, je vais voir un pilote de ligne, un docteur et un juge.
C'est Léna Gillet, je suis en 3e au collège de Baudoux. J'ai pu participer d'abord à un ingénieur en chimie analytique et en biologie. Et pour moi, ça a pu permettre de voir d'autres métiers, parce qu'ensuite, je suis allée voir un météorologue. On a pu voir différentes perspectives et ça a aussi pu nous permettre d'essayer de voir d'autres filières, même si c'est pas forcément nos métiers, enfin ce sera pas forcément nos métiers plus tard, ça a permis même à nous de voir d'autres métiers.
Parmi ces métiers qui sont proposés, est-ce que quelque chose t'intéresse en particulier?
L'ingénieur en chimie et biologie, péricultrice et docteur, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est des métiers concernant la santé. Et j'aimerais bien un jour travailler dans un de ces métiers.
Des propos recueillis par Kélinda Boicou, ce forum des métiers et de l'orientation au collège Baudoux se poursuit jusqu'à 15h. Déposer des pétitions pour soumettre des sujets d'études sur les questions locales, c'est ce que propose le CZNC depuis 6 mois au travers de sa plateforme de pétitions citoyennes. Un groupe de travail vérifie la conformité de la pétition à la charte de participation et au domaine de compétences du CESE avant que le bureau valide ou non la pétition. Si la proposition est validée, elle doit obtenir 400 signatures en 2 mois pour que le CESE s'en saisisse et travaille sur le sujet. Un moyen d'associer les citoyens à la vie publique, explique Jean-Louis d'Angleberme, le président du CESE-NC.
Cette participation citoyenne, c'était pour rester dans la philosophie de ce que le CESE national est et pourquoi il a été mis en place. Et par ricochet, les CESER de France et nous-mêmes. De Gaulle disait une démocratie plus large, au-delà des seules élections, un dialogue structuré entre l'exécutif et les forces vives du territoire, et une organisation pour être lanceur d'alerte ou un thermomètre des tensions sociales. Donc cette participation citoyenne qu'on a mis en place, ça n'a pas été simple, va dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, je vous dis, il y a un peu plus d'une trentaine de pétitions. Alors, elles n'atteignent pas le nombre de signatures voulues. Mais ce que je relève, c'est qu'il y a beaucoup de pétitions, par exemple sur les élus, enfin la défiance vis-à-vis des élus, il y a 7 pétitions qui ont été déposées, sur les institutions 4, sur la jeunesse 3, sur le transport 3. Donc on voit que c'est plusieurs pétitions alors que c'est le même sujet. Donc peut-être on a une réflexion à faire dans ce sens-là.
Depuis le lancement de la plateforme, plus d'une trentaine de pétitions a donc été déposée, mais une seule a atteint les 400 signatures en 2 mois. Il s'agit de la pétition sur la culture sacrifiée, déposée après les émeutes de mai 2024 pour protester contre la baisse des subventions accordées au secteur culturel. Récemment, 2 pétitions ont été déposées. L'une est intitulée « Prévenir l'oisiveté d'une partie de notre jeunesse par un engagement obligatoire dans des actions de solidarité ». L'autre concerne l'impact du coût de la vie sur les salaires et retraites. Si vous voulez que le CESE s'empare de ces sujets, vous pouvez signer ces pétitions en vous rendant sur la plateforme pétition.cese.nc. Et toujours dans l'actualité en Calédonie, la semaine de la mobilité est lancée. Jusqu'à mardi prochain, les Calédoniens sont invités à réduire leurs déplacements carbonés et à privilégier les modes doux, le covoiturage par exemple. Des animations sont proposées dans ce sens par l'ADEME, l'Agence calédonienne de l'énergie, ou encore l'association Droit au vélo ou la CCI. Un challenge est également organisé sur le site Cap Vers 0 NC pour tendre vers le zéro émission de gaz à effet de serre. Caroline Nicolo est la représentante territoriale de l'ADEME en Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna.
Le secteur des transports est émetteur de gaz à effet de serre. Nouvelle-Calédonie, c'est le deuxième secteur après la mine et la métallurgie. Il y a la question des gaz à effet de serre et aussi des émissions polluantes. Donc le but, c'est de cette semaine sur l'écomobilité, c'est de sensibiliser les gens sur d'autres façons de se déplacer. C'est vrai que les habitudes sont dures à changer et c'est le but justement de cette semaine, de tester de nouvelles façons de se déplacer en participant par exemple à un challenge d'écomobilité avec le site Cap Vers 0 NC, c'est une idée, de tester des vélos à assistance électrique pour essayer de réduire l'autosolisme. En gros, c'est être tout seul dans sa voiture.
Et demain, l'association Droit au vélo proposera une action de roulage à Nouville, mais aussi des essais de vélo à l'université. Samedi, au Pump Track de Païta, une journée éco-mobilité sera proposée à destination du grand public. Il est 11h50, une nouvelle pause dans ce journal et on va se retrouver dans un instant pour évoquer l'actualité en métropole et dans la région Pacifique.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Solenco, la référence pour la pose de vos sols. Parquet, sol souple, ragréage, particulier ou pro, choisissez la qualité. Solenco, 83 92 99. Solenco, la qualité sous vos pas.
Attention, bon plan explosif. Profitez de moins 20% de remise sur tous les vêtements Under Armour. Rendez-vous dans votre boutique Project Under Armour Nouméa en plein centre-ville. Offre valable du 26 août au 27 septembre seulement, alors dépêchez-vous. Samedi 27 septembre de 8h à 13h, foncez au complexe Le 4. Vente flash sur les croquettes pour chiens et chats. Un paquet acheté égale 1 offert. Vos animaux se régalent et la bande à nounous reçoit 10% des ventes. Offre valable uniquement le 27 septembre. Plus d'infos sur Facebook, Le 4. Le 4, 186 rue Jacques-Yécaoué. Faites vos courses autrement.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46. Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal avec l'actualité en métropole.
Sébastien Lecornu toujours à la recherche d'un équilibre politique difficile à trouver pour assurer la stabilité du gouvernement qu'il va mettre en place. Pour l'instant, le nouveau Premier ministre fait dans le consensus. Il n'y aura pas de suppression de deux jours fériés dans le nouveau projet de budget. Cette mesure annoncée par son prédécesseur avait suscité beaucoup d'opposition. Autre annonce de Sébastien Lecornu, il va mettre fin aux avantages à vie accordés aux anciens ministres. Ce n'est pas ça qui permettra de relever les comptes publics, mais c'est une décision particulièrement symbolique. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
200 000 euros par an pour Dominique de Villepin en 2023, la même somme pour Bernard Cazeneuve, resté 5 mois à Matignon en 2017. Chaque année, le coût des anciens premiers ministres est estimé à près d'1,5 million d'euros, soit une part infime des 44 milliards d'euros d'économies souhaitées par le gouvernement. Mais la mesure a valeur de symbole, véhicule avec chauffeur sans limite de temps, protection policière pour ceux qui le réclament ou encore mise à disposition d'un secrétariat particulier pendant 10 ans avant l'âge de 67 ans. C'est à ces avantages que Sébastien Lecornu entend s'attaquer. La réforme, ce n'est pas toujours pour les autres, justifie le successeur de François Bayrou, qui ajoute « On ne peut pas demander aux Français de faire des efforts si ceux qui sont à la tête de l'État n'en font pas ». La proposition est d'ailleurs approuvée par les principaux concernés et devrait donc faire rare, faire consensus parmi les députés.
Malgré ces tentatives de donner des gages à tout le monde, la stabilité politique du Premier ministre et de son gouvernement n'est pas assurée. Il recevra les chefs des partis de gauche dans les jours qui viennent, sauf LFI qui a décliné l'invitation. Quant au Rassemblement national, il n'attend qu'une chose, la prochaine dissolution de l'Assemblée nationale. Marine Le Pen l'a rappelé lors des universités d'été du parti ce week-end à Bordeaux.
Nous sommes prêts. Ne regardez pas le blocage d'aujourd'hui. Voyez plutôt l'alternance politique qui déjà se dessine. Lorsque ce gouvernement déjà oublié sera censuré, probablement dans quelques semaines ou dans quelques mois, eh bien vous serez à nouveau appelé aux urnes. Vous aurez le pouvoir de faire de Jordan votre Premier ministre.
Le Rassemblement national dont les représentants seront reçus mercredi à Matignon. Il est lui-même le premier étonné. Philippe de Villiers ne s'attendait pas à un tel succès lorsqu'il a lancé une pétition pour réclamer un référendum sur l'immigration. En une semaine, elle a recueilli 1 100 000 signatures. Pour Philippe de Villiers, c'est maintenant à la classe dirigeante de faire le nécessaire et de prendre enfin ce sujet en compte.
Vous ne voulez pas voir ce que nous voyons. Vous ne voulez pas entendre le cri du peuple qui ne veut pas mourir. Si vous ne répondez pas, demain, nous serons 2 millions, puis 3 millions. Et plus encore, je m'adresse au président de la République. Vous avez traité ceux qui parlent de sécurité et d'immigration de brainwashers. Voilà. Et bien aujourd'hui, les Français sont 1 million à vous dire, monsieur le président, de grâce, écoutez-nous.
Philippe de Villiers, à propos de la pétition sur le référendum sur l'immigration qu'il a donc introduit et qui a recueilli plus d'1 million de signatures en une semaine. L'actualité politique en métropole, c'est aussi cette polémique déclenchée par le premier secrétaire du Parti Socialiste. Olivier Faure appelle à dresser le drapeau palestinien sur le fronton des mairies le 22 septembre, le jour où plusieurs États veulent reconnaître l'État palestinien. Proposition qui fait vivement réagir alors que le 22 septembre est aussi le jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire le nouvel an juif. L'actualité dans la région avec un rapprochement militaire entre l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les deux pays doivent signer demain un traité de sécurité pour unifier leurs forces. Il sera ratifié par le Premier ministre australien Anthony Albanese, actuellement à Port Moresby pour les festivités autour du 50e anniversaire de l'indépendance papoue. Signé aussi par son homologue James Marape, la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Le ministre papou de la Défense, Billy Joseph, a indiqué que ce pacte va notamment permettre aux deux armées d'unir leurs moyens si la souveraineté territoriale de l'Australie ou de la Papouasie-Nouvelle-Guinée vient à être menacée. « Nous ne parlons pas ici d'interopérabilité, a-t-il insisté, mais de forces totalement intégrées. » Selon certaines sources, le traité va également inclure la modernisation de la capacité et de la compétence opérationnelle de l'armée papou, ce qui va coûter des milliards de dollars à Canberra. Le ministre australien de la Défense, Richard Marles, a précisé que les papous pourront également intégrer l'armée australienne, recevront une solde semblable à celle des soldats australiens et pourront même accéder à la citoyenneté australienne. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
On va marquer une dernière pause dans ce journal. Il est 11h56. On parlera sport dans un instant avec ce nouvel exploit d'Armand Duplantis qui a passé la perche à 6,30 m, nouveau record du monde.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite ? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Jusqu'au 4 octobre, Cégel vous offre votre déjeuner vue sur mer. Chaque jour, de nouveaux gagnants. Rendez-vous en magasin pour tenter votre chance. Plus d'infos sur Facebook Le 4. Cégel, votre magasin au complexe Le 4, 186 rue Jacques Ekaoué, 4e kilomètre.
Faites vos courses autrement.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal avec Jean-François Baudin pour l'actualité sportive.
Oui, l'actualité sportive avec un Armand Duplantis planant au championnat du monde d'athlétisme. Le Suédois a fait chavirer le stade de Tokyo. Non seulement il remporte le concours de saut à la perche, mais il établit un nouveau record du monde à 6,30 m. Cyril Delamorinerie pour Europe 1.
Armand Duplantis a volé dans le ciel de Tokyo. Une fois qu'il était assuré d'un troisième titre mondial, Mondo, comme on le surnomme, a tenté de franchir une barre à 6,30 m, ce qu'il a fait avec succès. Le consultant athlétisme d'Europe 1, Jean-Claude Perrin, décrypte son saut prodigieux.
Il s'élance pour le troisième essai. Il allait vite. Au moment où il quitte le sol, ça a été une déflagration. Il a escaladé le ciel et le record a été battu. Le stade, c'est assez rare pour des Japonais. Ils sont mis à applaudir, à se mettre debout. On n'avait jamais vu ça sur un stade d'athlée au Japon.
Le Suédois de 25 ans, né en Louisiane aux États-Unis, améliore pour la 14e fois son propre record du monde. À 25 ans, la star de l'athlétisme égale la légende ukrainienne Sergei Bubka au nombre de records battus. Le double champion olympique, pétri de talent, est également fan de musique. Mondo Duplantis a sorti ce single régulièrement diffusé dans les stades.
Voilà, Cyril de la Morinerie pour Europe 1 à propos donc de ce nouveau record du monde du saut à la perche établi par Mondo Duplantis lors des championnats du monde. C'est la fin de ce journal à 11h59, mais dans un instant, vous retrouvez le magazine Citoyen. Je vous rappelle que Lionel Sabot et ses invités vont parler cette semaine des JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse.